les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Alors Sophie, nous avons
Philippe Scarzoni au téléphone qui va nous dire effectivement s'il a des convictions. Philippe Scarzoni, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. On était en train de parler du virage qu'a pris la bande dessinée et notamment la reconnaissance par le journalisme d'une certaine façon, puisqu'il y a de plus en plus de dessinateurs qui fonctionnent un peu comme des journalistes qui font des reportages. Et en l'occurrence, vous avez dessiné l'album qui s'appelle Saison Brune, qui est un album très documenté en l'occurrence sur les... comment vous nous définiriez ?
Je pense que le plus simple, c'est de qualifier ça de documentaire. Ça se rapproche du cinéma documentaire. Moi, je préfère parler de documentaire que de reportage ou que de journalisme, parce que je pense qu'il y a dans le travail des auteurs qui font de la bande dessinée documentaire un souci d'élaboration formelle qui n'a pas forcément, en tout cas pas de la même nature dans le journalisme. Et je pense que ce que la BD explore, essaye de créer, et c'est effectivement assez récent, c'est ce que le cinéma fait depuis le début, c'est le documentaire. Parler du réel sans la médiation de la fiction. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet album que vous évoquez. Et je l'ai fait un petit peu comme le feraient probablement les réalisateurs de cinéma, c'est-à-dire en allant interviewer des gens qui s'y connaissent mieux que moi, en me documentant.
Des journalistes, des experts, non, des scientifiques aussi, vous êtes allé...
Voilà, des scientifiques, des experts en question d'énergie.
Parce que c'est sur le réchauffement climatique, hein, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est un bouquin qui essaye de parler un peu de la question du réchauffement climatique.
La vision est un petit peu cauchemardesque quand même, un peu catastrophique, non ? Pourquoi cette volonté de...
C'est pas une volonté, hein. C'est bien malgré moi. Je veux dire, moi j'aurais bien aimé annoncer des bonnes nouvelles et j'aurais bien aimé en lire un peu plus. Malheureusement, c'est pas une vision cauchemardesque ni catastrophique. C'est la panade dans laquelle on est. Il s'agit d'essayer d'en rendre compte d'une part, parce que ça peut motiver à se dire qu'il faut faire bouger les choses, de constater la gravité de la situation, et puis dans un deuxième temps, dans le livre, essayer de trouver des solutions. Ça veut dire d'une part écarter les mauvaises solutions, celles qui amènent dans le mur ou qui confortent des inégalités, et puis en trouver qui soient scientifiquement et politiquement valables, en tout cas de mon point de vue.
Alors ça me fait penser ce dialogue là que vous venez d'avoir sur est-ce que c'est catastrophiste ou est-ce que ça reflète la réalité. Au quatrième de couverture de Boboland de Dupuis et Berberian, on voit deux pingouins sur un tout petit morceau de banquise et l'un des deux disant quelque chose du genre « tout est foutu » et l'autre lui disant « mais arrête ». Et c'est vrai qu'on se retrouve, en fait finalement c'est un débat qu'on retrouve... dans tous les médias, hein, pas seulement dans la bande dessinée, dès qu'on évoque la question du réchauffement climatique, on a beau dresser des constats de plus en plus alarmants, puisque là, finalement, on en est à des perspectives de réchauffement à plus 4 degrés. C'est générateur d'angoisse à juste raison. Et puis, en même temps... Est-ce qu'on prend vraiment les mesures nécessaires pour au moins le ralentir ? J'en suis pas sûre.
Ah non, on prend pas du tout les mesures nécessaires, mais cette histoire des pingouins, elle est bien emblématique de la question. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas les pingouins le problème, ou c'est pas les ours polaires. Moi, je serais très triste de voir les océans monter d'un mètre, de voir disparaître une partie des espèces et des écosystèmes, etc. Mais c'est pas d'un point de vue écologique que je parle dans ce livre-là. C'est les conséquences pour les sociétés humaines, pour les êtres humains. D'après l'ONU, il y a déjà 300 000 personnes par an qui meurent des conséquences du réchauffement climatique. Donc c'est pas deux pingouins sur un petit bout de banquise, hein, le problème.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale des réfugiés, justement. Et c'est toujours le problème de ces journées internationales où il faudrait ne penser pendant 24 heures qu'à un seul problème. Mais de fait, les réfugiés climatiques, il y a quelques années de cela déjà, une alerte, notamment par rapport aux Sundarbans, dans le golfe du Bengale. Là, depuis quelques semaines, il y a les premiers réfugiés climatiques en Alaska. De fait, ça touche de plein fouet des populations qui sont déjà dans des situations souvent pas très faciles et qui n'ont certainement pas bénéficié de ce délire de consommation dont nous avons bénéficié.
Moi, vous avez dit l'essentiel. C'est une question dans laquelle il y a un peu toute la réponse et la description de la situation. Effectivement, c'est les populations des pays pauvres, des pays du sud économique qui sont les plus vulnérables à ces changements climatiques, parce que les riches peuvent se déplacer, anticiper les catastrophes, se reloger. Mais pour les populations du sud économique, c'est des questions de survie. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas ébranler aussi nos systèmes économiques et donc nos systèmes politiques au nord. Mais c'est ça, les inquiétudes qui ont été le moteur de ce livre.
C'est ce que vous démontrez en plus, et je trouve que le propos est pour le coup très bien étayé. Enfin, vous êtes vraiment bien documenté. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'en plus vous expliquez un peu, vous mettez en scène, parce que vous expliquez le cheminement intellectuel, personnel, qui vous amenait à traiter ce sujet. Je crois que vous n'étiez pas un expert de l'écologie en l'occurrence.
Non, pas du tout. C'est pour ça que les compliments que vous m'adressez à la fois me touchent, mais en même temps, c'est des compliments qui sont adressés aux gens que j'ai interviewés ou aux auteurs que j'ai lus, dont j'ai recyclé d'une certaine façon en bande dessinée le savoir, les connaissances et les analyses. Moi, je me place très modestement dans ce schéma-là comme un peu le porte-parole en bande dessinée de ces sonneurs d'alarme.
Et en l'occurrence, vous proposez des solutions, je crois. Vous insistez beaucoup sur les... Enfin, qu'est-ce qui est possible personnellement en constatant qu'il y a peu de choses qui sont possibles, mais que vous insistez beaucoup sur les actions collectives.
Oui, mais c'est vrai que la première question qu'on se pose quand on réalise la gravité de la situation, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, à un niveau individuel. Et on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire grand-chose, ou alors des choses qui sont extrêmement coûteuses personnellement, mais qui n'ont pas un impact très fort sur la situation. Alors c'est important d'avoir pris conscience, mais c'est pas suffisant. Et je pense que c'est effectivement à un niveau politique, à un niveau plus structurel, que les changements d'ampleur doivent se faire. Et c'est là qu'on a un peu les bras qui tombent, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, bah rien ne se passe. Non seulement rien ne se passe, mais même nos émissions de gaz à effet de serre sont toujours plus importantes, et elles sont même plus importantes maintenant que dans le plus noir des scénarios du GIEC.
Et alors juste, parce que vous faisiez référence au documentaire, au film documentaire, donc juste avant de vous avoir en ligne, on avait justement ces échanges sur la différence entre documentaire et reportage, avec dans le documentaire aussi cette vision d'auteur qui est de subjectivité assumée. Moi, j'aurais envie de vous demander comment vous avez... écrit, construit cet album. Comment vous en avez fait le montage, si je pousse la comparaison avec le travail qui peut se faire dans le cinéma. Est-ce que vous avez fait un montage des séquences sans les dessiner au préalable? Est-ce que vous avez dessiné et puis ensuite vous avez réorganisé vos planches? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur la maturation, la fabrication de l'album que nous avons eu tant de plaisir à lire?
Que vous avez mis 5 ans à réaliser en plus, je crois.
Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance, effectivement, d'avoir le temps à la fois de me documenter, mais aussi le temps de penser l'album, parce que faire un bouquin, une bande dessinée de 500 pages sur le réchauffement climatique, ça fait 500 possibilités de se rater, quoi. C'est pas forcément évident. Des fois, on peut faire un bouquin très important pour soi-même et qui soit un gros ratage. Et j'avais assez clairement en tête les difficultés avant de commencer à faire ce livre-là. Et il fallait à la fois organiser effectivement toute la documentation, pas s'y perdre, arriver à garder les choses essentielles, et puis arriver à faire une bonne bande dessinée. Et les deux vont pas forcément de soi. Des fois, les deux jouent l'un contre l'autre. Et j'ai eu le temps de penser effectivement des séquences un peu plus personnelles, un peu plus poétiques, un peu plus nostalgiques, de parler un peu d'autre chose que simplement du réchauffement climatique, mais aussi du temps qui passe, des choses qui ne reviendront pas. Et après, et ben, j'ai planifié tout ça sur des grandes feuilles de papier que je collais les unes aux autres et je mettais les différents thèmes sur des post-it de couleurs différentes en fonction de choix narratifs que j'avais fait. Est-ce que telle séquence consacrée aux conséquences du réchauffement climatique serait plutôt racontée dans un récit à la troisième personne, façon documentaire, ou est-ce que telle séquence où le narrateur se pose des questions sur qu'est-ce qu'il peut faire lui-même contre le réchauffement climatique, celle-là serait racontée à la première personne, quelles séquences sont racontées en voix off, quelles séquences sont racontées en dialogue, et j'essayais à la fois de faire alterner des séquences comme ça pour qu'il y ait un rythme qui change dans le livre et des respirations, et puis aussi de choisir le mode narratif le plus pertinent pour raconter dans le livre telle ou telle séquence, tel ou tel segment.
En tout cas,
donc, j'avais la possibilité comme ça de déplacer un petit peu mes séquences et d'en éliminer au fur et à mesure, parce qu'il y a énormément de choses dont je ne parle pas dans ce livre. Il y a tellement de thèmes qui sont traités, mais tellement de thèmes que j'ai dû laisser de côté. Mais voilà, au bout du compte, les choses s'organisent et il y a comme une espèce d'économie du récit qui prend le pas, des logiques qui se mettent en place. Certaines, on les a décidées à l'avance, et puis d'autres, on les repère après coup, et puis hop, on réaligne tous les canards sur l'étagère, en leur faisant un peu tourner la tête dans le même sens.
Et du coup, vous repartez bientôt pour un nouveau traitement de l'écologie dans la BD, ou vous allez complètement changer de sujet ?
Non, j'avais l'intention de faire un bouquin sur la crise des subprimes et sa contagion aux dettes publiques, et puis au moment de m'y remettre, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu de faire autre chose créativement parlant et pas de me replonger dans une doc et puis de me reposer les mêmes types de questions sur et comment faire pour raconter ça en bande dessinée. Donc là, je suis parti sur une fiction qui n'a rien à voir avec le chemin public.
D'accord. En tout cas, on invite nos auditeurs à lire Saison Brune parce qu'on l'a beaucoup apprécié aux éditions d'Ilcourt. Je lis assez vite.
Et puis on guettera votre prochain album dans les bacs.
Merci beaucoup.
Merci Philippe, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Alors pendant ce temps, Eric nous a sorti une espèce d'instrument entre le ukulélé et la guitare brésilienne.
Non, c'est un ukulélé ténor.
Oh là là, en fait, je ne savais pas qu'il y avait des ukulélés ben, alto.
Oui, absolument. D'abord,
ukulélé.
Soprano, uh-huh. Ensuite concert, ténor, baryton, etc., etc.
Il y a toute une famille de ukulélé.
C'est toute une famille, comme les cordes, comme les vents.
Oui, alors Eric, je suis surpris, je ne savais pas que vous apparteniez à cette famille de ukuléistes, je ne sais pas comment on dit.
Oui, j'y appartiens depuis une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est un instrument très à la mode. Et là, comme c'était une émission sur l'écologie, cette chanson, j'ai choisi cette chanson pour non pas illustrer, mais en tout cas m'associer à ce qui est évoqué ce soir.
Alors Eric, on a Eric Guiton, donc on reçoit. On a écouté un premier titre de vous en début d'émission, qui s'appelait donc Une ville, un soir, qui porte le même titre que l'album que vous venez de présenter, qui est un album qui est sorti en 2012.
Oui,
En janvier 2012. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque c'est au moins le quatrième album, peut-être ?
C'est le cinquième.
Le cinquième, ah, d'accord. Je ne les ai pas tous.
Non, mais c'est pas grave.
Et Eric Guiton, vous êtes un auteur, compositeur, interprète. J'avais envie de parler avec vous ce soir de l'engagement que ça représente d'être un auteur, compositeur, interprète. On est sur une radio engagée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente.
Bon, alors, l'engagement.
Parlons un peu de l'engagement. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'engagé
dans ma vie de citoyen.
Engagé et dégagé.
Oui, je parlais de ça. En tant qu'artiste.
En tant qu'artiste, je suis dégagé. En tant que citoyen, je suis engagé. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui viennent là chanter et donnent des leçons en disant « Il faut que Yaka, tu dois. » Et ça, c'est insupportable. Hein. On sait où ça mène. Et puis, d'aucuns en ont fait des fonds de commerce. Et lorsque tu commences à rouler en Mercedes, il faut se poser des questions. Je reviens contre les gens qui roulent en Mercedes ou en deux chevaux, je m'en tape. Simplement, il y a un endroit, il y a une cohérence qui me paraît fondamentale. Et pour moi, l'engagement est citoyen. L'œuvre, si tant est qu'il y ait œuvre, doit rester complètement, j'ai presque envie de dire, neutre. Il n'y a pas de... personne ne doit donner de leçons à quiconque.
Mais sans parler de leçons, est-ce qu'un texte neutre, donc entre guillemets, n'est pas toujours engagé, entre guillemets, aussi?
Oui, alors il peut être engagé. Je parlais de Lily tout à l'heure de Pierre Perret. Oui, c'est un texte engagé, encore qu'il faudrait lui poser la question. Bien entendu, tout est politique, bien entendu. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, écoutez, les mecs et les filles, c'est comme ça qu'il faut voter. Voilà. Mmh. Je veux dire que... qui on est pour... Parce que c'est facile. C'est hyper facile à un endroit. Tu vois, tu fais des spectacles, machin. Et puis après, ça devient un fonds de commerce et c'est complètement dénaturé. C'est facile de faire de l'argent avec les idées à la mode.
Ça me fait penser à quelque chose. Je vais parler de moi deux secondes, mais je fais des concerts aussi. Et dans mon tour de chant, j'ai une chanson qui est ouvertement engagée. Ouvertement, disons, plus politique, puisqu'elle s'adresse... Elle parle des sans-papiers. Et quand je fais un concert, j'ai souvent tendance à introduire cette chanson en disant c'est la chanson engagée du concert. Et dans ma tête, je pense, en fait, c'est la seule qui peut-être l'est ouvertement, mais toutes les autres le sont finalement beaucoup plus, puisque... Quand on raconte une histoire,
n'importe quel texte, il engage de soi.
il engage l'autre aussi, parce que on ne parle finalement que des autres. Tout est bien évidemment vu par le prisme de celui ou de celle qui écrit, mais enfin. On n'écrit pas tout seul. Et pour moi, toute création est collective. Donc, tout acte de création est collectif. Après, dire camarade machin... Ok, moi, je n'ai rien contre. Je suis même plutôt pour. Mais ça devient un pléonasme.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que on se plagie soi-même et surtout, on se risque... Se tromper, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Je peux me tromper. Je veux dire, qui dans sa vie ne s'est jamais trompé? À commencer par sa femme. Mais non, je plaisante là. Je dis des bêtises. Mais c'est un peu ça quand même l'idée.
D'habitude, c'est Alexandre qui nous parle de sa femme. C'est pour ça là, il me regarde. Ça se voit pas à la radio. Mais voilà, on voudrait saluer toutes les femmes ce soir.
Oui, non, mais moi aussi, je les salue.
Y compris celles qui n'appartiennent à personne.
Non, mais c'est évident. Celles
qui... C'est-à-dire toutes.
Mais qui ne se trompent jamais en même temps.
Bon, pour revenir. On pourrait laisser divaguer Laurence longtemps sur ce sujet.
Oui, non,
pour revenir à votre album, Eric, c'est donc des histoires en français qui sont orchestrées de manière très simple, c'est-à-dire avec une guitare la plupart du temps, très peu de choses en plus.
J'ai mêlé les bruits de la ville. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que les fenêtres soient ouvertes. Parce que quand on crée une chanson, ça ne s'arrête pas. Quoi. Je veux dire, la vie ne s'arrête pas. Quand on fait une émission de radio, il y a des choses autour. Et j'ai mélangé des bruits de la ville avec mes chansons. C'est l'histoire de... En fait, c'est l'histoire d'un mec qui part. On ne sait pas si c'est Voyage autour de ma chambre ou s'il part vraiment. Hein, le livre de Xavier Demestre. Mais on ne sait pas s'il est parti. Et peu importe.
Ça me fait penser à une citation de Jean-Claude Brialy, je crois qu'il disait « Les plus beaux voyages se font en regardant par la fenêtre ».
Oui, c'est aussi Blaise Cendrars qui va dire à un moment donné « Qu'est-ce que tu en as à foutre que j'ai pris le Transsibérien si tu l'as pris avec moi ?» Bon, non, sauf que là, moi, il n'y a pas de malentendu, c'est vrai. Voilà, c'est une vraie fausse histoire ou une vraie histoire vraie.
L'heure tourne, on va vous écouter donc en direct et en live dans ce studio. Mmh. C'est notre parenthèse musicale, comme on l'appelle chaque troisième jeudi. On est sur Fréquence Paris Pluriel, je le rappelle.
La parenthèse, c'est la thèse des parents, n'est-ce pas?
C'est surtout un moment privilégié pour nous, parce qu'on a le plaisir d'avoir un petit concert rien que pour nous, et ça, c'est génial.
Voilà, et je pense que nos auditeurs apprécient ce moment d'intimité.
Bah, écoutez, je l'espère. C'est une chanson que j'ai écrite avec Pierre Barou pour le texte. À moins qu'il n'ait comme toi la naïve foi de l'homme des bois. Je crains qu'il ne soit narquois, cela à qui tu chanteras. S'il est vrai qu'il était une fois des fleuves et des fleurs et tout un choix de saisons, de prairies, de bois. Et s'il était une fois, s'il est vrai qu'il était une fois, les anciens le disent et je l'y crois, l'âge d'or à chacun son toit. Et s'il était une fois, à moins qu'il n'ait comme toi la naïve foi de l'homme des bois, je crains qu'il ne soit narquois, cela à qui tu chanteras. S'il est vrai qu'il était une fois un monde où la justice et la loi s'exprimaient d'une seule voix, et s'il était une fois, s'il est vrai qu'il était une fois un monde où bonheur était un choix, s'il y avait pour de pauvres ou rois, il y avait pour toi, à moins qu'il n'ait comme toi la naïve foi de l'homme des bois. Je crains qu'il ne soit narquois, cela à qui tu chanteras. S'il est vrai qu'il était une fois un monde aussi beau qu'on n'avait pas imaginé qu'on en soit là. Et s'il était une fois, s'il est vrai qu'il était une fois, j'aimerais tant qu'il était deux fois pour me dire jamais 203. Et s'il était deux fois, à moins qu'il n'ait comme toi la naïve foi de l'homme des bois, je crois qu'ils vont se moquer, ceux-là à qui tu as chanté. S'il est vrai qu'il était une fois.
Bravo, c'était Éric Guilleton, donc dans les studios de Fréquence Paris Pluriel sur Zoom Écologie, troisième jeudi. Éric Guilleton, pour nos auditeurs, ça s'écrit G-U-I-2-L-E-T-O-N. Il y a un site internet, un MySpace d'ailleurs, si je ne m'abuse.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Puis on peut voir plein de vidéos sur YouTube, Dailymotion, etc.
Donc Éric Guilleton est un homme moderne. Des dates à annoncer pour nos auditeurs parisiens?
Alors, alors je serai demain à Étampes, mais c'est à Paris.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin. Et puis je serai au festival Découvrir de Concèze le 15 août, qui est un festival superbe. À découvrir. Mais vraiment, c'est vraiment un lieu absolument incroyable où se mêle la chanson, la poésie. C'est avec le festival de Barjac, à mon sens, le festival qu'il ne faut pas louper.
Dans quelle région c'est déjà?
C'est en Corrèze. C'est entre Juliac et Pompadour. C'est mon ami, le poète Mathias Vincenot, qui a monté cette histoire depuis... c'est la 11e année.
Mathias Vincenot, qu'on a reçu dans cette émission il y a 2 mois ou 3 mois.
Ouais, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Mathias, c'est une très belle rencontre. Je serai à Paris le 7 octobre au 20e théâtre.
On retient la date.
Voilà, un coup de tonnerre.
Ah, j'adore, mais j'adore, c'est la vie. C'est la vie. Et tout à l'heure, dans la chanson, il y a eu un coup de tonnerre
oui,
aussi.
Oui, tout à fait, qui était bienvenu.
Voilà, puis après, il y a d'autres dates, mais enfin, bon, c'est un peu plus loin. Mais voilà, au 20e théâtre, rue des Plâtrières, dans le cadre des lundis de la chanson, le 7 octobre.
Merci Eric d'avoir participé à cette émission. L'émission n'est pas finie, donc vous pouvez encore intervenir dans le débat. On va recevoir au téléphone Delphine Lelay, qui est scénariste de Plogoff. Je repasse la parole à Sophie et je retourne derrière mes manettes.
Voilà, Sophie. À tout à l'heure, Alexandre, et bienvenue à toi à nouveau, Sophie. Alors, du coup, là, on fait un voyage dans le temps, si j'ai bien compris, jusqu'à Plogoff, lutte fondatrice pour beaucoup de militantes et de militants.
Exactement, on revient dans les années 80 à l'époque. C'était Giscard qui était président de la République et qui avait dit, alors Delphine Lelay, qu'on va avoir en ligne là dans quelques instants, va nous le confirmer. Il avait dit que de toute façon, il ne construirait pas de centrale nucléaire dans la mesure où la population s'opposerait à ces projets d'installation de centrales. Voilà. et l'histoire que raconte Delphine Lelay, et puis j'ai perdu avec qui vous aviez fait cette BD. Delphine, bonjour.
Bonjour. Avec Alexis Aurélou.
Voilà, merci. Et le scénario est venu d'où ? C'est une histoire vraie ? C'est comme je le disais, hein, c'était reprenez-moi sur cette histoire d'installation de centrale nucléaire, de la petite phrase de Valérie Giscard d'Estaing. J'ai malheureusement oublié la bande dessinée, donc du coup, j'ai pas cette petite phrase qui apparaissait au dos de l'album.
Quand elle veut dire qu'elle l'a oubliée, elle veut dire qu'elle a oublié de l'amener, parce que bien sûr, la bande dessinée est très vivace dans son esprit. Je vous rassure, Delphine.
Je n'en doute pas. Alors, il se trouve que j'en ai un exemplaire sous les yeux. Donc, effectivement, Valéry Giscard d'Estaing, en 78, disait « Il ne saurait être question d'imposer aux Français un programme nucléaire auquel ils seraient profondément opposés après avoir été complètement informés. »
Et en fait, toute votre histoire est basée
et
là-dessus.
78, et, c'est, et, puis, voilà. Et puis, les affrontements les plus violents ont commencé en 80, quoi. Donc... Oui, c'est une histoire vraie, même si quand j'étais enfant, on me l'a raconté souvent, parce que je suis originaire d'Ouarnenez, pas très loin de Plogoff, et on me racontait ça, et vraiment, enfin, une centrale nucléaire sur la pointe du Rhin, moi j'avais directement rangé ça dans la case des légendes, donc voilà, c'était une histoire... cocasse qu'on me racontait, quoi, que pour moi, enfant, enfin, et puis plus tard, j'ai compris que c'était réel, mais sans y accorder plus d'importance que ça, enfin, je suis passée à côté un peu. Et effectivement, c'est après l'accident de Fukushima que j'ai réentendu parler de Plogoff. Il y a eu une émission de radio, voilà, où des gens ont reparlé des événements, des gens qui l'avaient vécu. Et là, j'ai pris conscience vraiment de l'ampleur du mouvement, de ce que ça avait été, Et donc c'est ça qui m'a donné vraiment envie de m'y intéresser et puis après de le raconter en bande dessinée, quoi.
Et en l'occurrence, vous êtes allé rencontrer dans un premier temps, me semble-t-il, des documentaristes qui, en l'occurrence,
qui
préfacent votre album, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, pardon.
Pardon ?
Qui préfacent votre album, en l'occurrence.
Oui alors c'est Félix et Nicole Le Garec qui préfacent l'album et qui ont fait un documentaire. Ils sont allés filmer les affrontements. Donc à la fin de la lutte, il y a eu une enquête d'utilité publique qui a du coup suscité des affrontements entre les forces de l'ordre et les opposants au projet de centrale. Et donc eux sont allés sur place filmer les événements, donc vraiment à chaud. Donc leur documentaire, c'est vraiment des images. En fait, c'est les seules qui existent, les images de cette époque-là, quoi. Et puis, en 2000, une femme, Brigitte Chevet, a réalisé un autre documentaire. Elle est retournée voir les différents protagonistes, mais de tous bords, pour le coup, 20 ans après les événements, du coup. Et donc, pour voir un peu l'héritage de Plogoff, et puis voilà ce qui... ce que ça avait donné, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé, si je puis dire, pour faire une BD ? Parce que justement, il y avait eu pas mal de reportages, il y avait eu des articles de presse. C'est pour toucher un autre public ? C'est, comme vous le disiez, quelque chose d'assez personnel, puisque vous étiez de la région ? Qu'est-ce qui a le plus...
Parce que c'est mon métier. Donc voilà, si j'étais chorégraphe, j'aurais fait un spectacle de danse. Mais je suis scénariste, du coup, j'ai choisi de le raconter en bande dessinée, quoi, simplement. Après coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, en cherchant de la documentation, aucune BD n'existait sur le sujet. Tant mieux, enfin, que ça se raconte effectivement en bande dessinée, parce que je pense que ça peut permettre de toucher un autre public, oui.
Parce qu'en l'occurrence, la lutte a abouti, a été finalement assez positive, la mobilisation, en l'occurrence.
Oui et non. Parce que effectivement, bon, c'est une victoire parce qu'il n'y a pas de centrale à la pointe du Raz aujourd'hui, mais c'est une victoire un peu en demi-teinte parce que ça a laissé beaucoup de séquelles à Plogoff au sein du village. Et puis, c'est une victoire qui est due à l'élection de François Mitterrand, donc. Voilà, c'était un peu une opportunité aussi pour François Mitterrand de récupérer des voix en Bretagne en 1981. Donc, bon, c'est pas, c'est, ça reste une victoire, et puis les gens qui ont lutté contre ont vraiment tout donné, et puis si Mitterrand n'était pas passé, ils auraient continué à se battre, c'est sûr, mais ça serait sans doute parti encore plus loin et ça aurait peut-être été dramatique. Mais voilà, c'est une victoire qui a été douloureuse à obtenir et puis qui laisse des séquelles.
En même temps, moi je pense là, en vous écoutant aux habitantes, aux habitants de Jaitapur, en Inde, dans le Maharashtra, où Areva essaye d'implanter deux EPR. Il y a une forte mobilisation citoyenne, c'est une zone sismique, on en a déjà parlé dans Zoom Écologie, hein. Il y a une forte mobilisation citoyenne, il y a une répression policière très importante, et je me dis que voilà, parfois aussi, entre militants ou de pouvoir connaître des histoires qui ne se terminent pas toutes par la défaite de la mobilisation, oui. C'est drôlement important aussi,
parce que
ça redonne beaucoup d'énergie également, et l'énergie positive, de se dire que oui, les citoyennes, les citoyens peuvent à un moment dire non à des projets complètement délirants, même si en France, malheureusement, on sait qu'il y a très peu d'exemples et que très probablement, dans un autre contexte, l'engouement nucléariste des partis majoritaires en France n'est pas forcément super rassurant, quoi.
Sûr. Et puis, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette histoire de Plogoff aussi, c'est que ça montre effectivement que des choses sont possibles, que par la solidarité et la ténacité, parce que ça a duré des années quand même, cette histoire, on peut arriver effectivement à une victoire malgré tout, mais que c'est pas sans conséquence et que il faut y aller, quoi. Enfin, et que si vraiment on veut changer les choses, ben ça se fait pas tout seul non plus, et c'est pas juste en descendant dans la rue avec des drapeaux. C'est en donnant vraiment de soi, quoi, y compris dans l'écoute de chacun au sein de la mobilisation, de la coordination. Enfin, ça montre que c'est vraiment pas rien, que c'est pas simple, et qu'il faut passer énormément d'épreuves de découragement, de remobilisation, qu'il faut tout le temps des gens qui remobilisent aussi, parce que je me suis rendu compte de ça dans Plogoff, hein, ça a fait partie de la complexité choisir un moyen de raconter cette histoire. C'était que ça a vraiment il y a eu beaucoup de moments de démobilisation et beaucoup de remobilisation aussi, et beaucoup de moments de découragement, et puis beaucoup de force et de foi dans le refus, quoi. C'est pas simple, quoi. Et on a peut-être tendance aujourd'hui, quand on se mobilise contre quelque chose, à penser que voilà, en quelques jours ça va être réglé, il suffit de faire beaucoup de bruit et puis les politiques pourront pas faire autrement. Bon, il en faut plus, à mon avis, quoi.
En plus, ce que je trouve que vous décrivez très bien dans votre BD, dans votre histoire, c'est à la même époque, il faut se rappeler aussi que à Crémalville, ça se passait bien autrement. Donc je souligne effectivement ce que disait Laurence tout à l'heure, que c'est aussi quand même une victoire contre les institutions et les décisions des politiques, des industriels. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, comme vous dites, c'est des années de lutte, etc. Et la deuxième chose que j'ai trouvé très très intéressante, c'est aussi le calme de l'histoire, en fait. Enfin, il y a une forme de sérénité, et ce que vous mettez bien en avant, c'est le fait qu'en fait les gens qui sont mobilisés, la lutte citoyenne, elle vient pas de d'anti-nucléaires acharnés qui depuis des années militaient. Non. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé particulièrement intéressant.
À l'époque, ils savaient pas du tout ce qu'était le nucléaire, quasiment. Enfin, voilà, c'était ça. Comme en 74, on leur a dit que Plogoff, enfin, ils ont appris par le journal que Plogoff figurait sur la liste des sites retenus par EDF pour implanter une centrale nucléaire en Bretagne. Et à partir de là, ils ont commencé à se demander ce que c'était que cette usine qu'ils allaient mettre à la pointe du Rhin. Mais ils connaissaient pas vraiment cette technologie, ils connaissaient pas ces dangers ou ces conséquences pour l'environnement, pour la santé. Enfin, tout ça, ils l'ont appris au fil des années, quoi. Et effectivement, après, quand l'enquête d'utilité publique a commencé en 80, là, pour le coup, ils étaient armés d'une bonne connaissance et d'une vraie volonté de d'aller contre, quoi. Mais oui, au départ, ils savaient pas du tout. Et le calme, et là aussi pour montrer que la vie continue et que justement c'est des années de lutte, quoi. C'est pas des semaines ou des mois, c'est 6 ans, 7 ans de lutte. Et en 6-7 ans, on lutte pas non plus tous les jours. Enfin, il y a des jours où, tous les jours, on, en fonction des saisons, on continue à faire le jardin, on va chercher les enfants à l'école.
La vie continue.
La famille à manger le dimanche midi. Enfin, oui, évidemment, la vie continue. Et puis, quand il faut se mobiliser, on y va, on se mobilise. Ça dure peut-être 4 jours à dormir dehors. Mais pendant 4 jours, on dort dehors. Ça y est, on a gagné une étape. Et puis la vie repart. Voilà, on va pêcher, on va, on fait nos activités, on va bosser. Et puis 2 mois après, hop, il y a une décision qui tombe. Il faut se remobiliser. On y va. Enfin, et c'est tout ce tout cet effort sur plusieurs années qui m'a vraiment étonnée et qui est encourageant, effectivement, aussi, quoi.
Est-ce que vous pensez que ça a certainement changé la vie des adultes, mais est-ce que vous pensez que ça a influencé la vie des enfants qui ont été élevés dans ces luttes-là ?
Je pense que même certaines personnes nous le disent quand on se déplace dans les librairies ou les salons, nous disent que des gens qui ont vécu quoi les événements, qui ont peut-être 40 ans aujourd'hui, 42 ans, enfin qui étaient vraiment enfants à ce moment-là, nous disent que ça a fait partie de leurs premiers émois politiques en fait, ou de leur première prise de conscience. Et je pense que ça a suscité peut-être des vocations à certains dans la lutte, dans l'écologie. Après, je sais aussi que certains, justement, en gardent des séquelles vraiment douloureuses. J'ai eu une dame qui m'a parlé dans une dédicace, là, et qui en avait encore les larmes aux yeux, quoi. Elle m'a expliqué qu'elle avait 15 ans au moment des affrontements avec les forces de l'ordre et que sa maison était placée juste à l'endroit où les forces de l'ordre étaient positionnées au début de la lutte. Et elle en tremblait encore. Elle avait manifestement des images qui lui restaient en tête de l'occupation, quoi, de son village.
Ouais, parce que c'était vraiment un état de siège. Oui.
Et des tirs, des cris. Enfin, au début, ils savaient pas non plus avec quoi on leur tirait dessus. Donc, ils avaient le bruit des tirs et j'allais dire des soldats, mais c'est presque ça, quoi. Des gardes mobiles qui couraient, quoi. Et certains ont cru qu'ils allaient mourir, quoi. Vraiment. Et certains ont été blessés aussi. C'est violent à recevoir tout ça pour. Parce qu'ils refusaient et que ça allait pas avec les intentions du pouvoir, quoi.
Et en plus, en face, il y avait tout un discours extrêmement techniciste. C'était le progrès, c'était la science.
Alors il y avait ça, il y avait le côté c'est le progrès. Il y avait le côté aussi, de toute façon, c'est soit ça, soit le retour à la bougie. Donc certains disaient, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas si longtemps, on y était encore à la bougie. Donc ça fait partie des arguments qui n'ont pas du tout pesé. Et il y avait aussi tout le côté progrès pour Plogoff au niveau des infrastructures qu'on allait leur proposer, une 4 voies qui allait les relier directement à Quimper, des écoles, des piscines, des campings, des tennis, enfin tout un tas d'équipements hyper luxueux pour un petit village comme ça. Donc ça a fait partie des arguments qui auraient pu faire vaciller le maire, par exemple, ou.
Mais en l'occurrence, les maires ont été plutôt des appuis pour cette lutte citoyenne, parce que vous le décrivez très bien dans l'album, que pendant l'enquête d'utilité publique, il était impossible de s'installer dans les mairies, donc ils avaient monté des camions pour... j'ai trouvé ça plutôt intéressant, le jeune qui est tout content d'avoir trouvé un travail, parce qu'il y avait quand même du chômage.
C'est une anecdote réelle, je l'ai entendue dans une conférence, cette anecdote, donc je l'ai remise parce que ça m'a fait bien rire aussi. Ouais.
C'est qu'il conduit le camion, hein, c'est ça en fait. Il croit qu'il a trouvé le...
Il revient d'un long voyage un peu autour du monde et il revient en Bretagne, quoi, chez lui, et puis il croit avoir trouvé un boulot pas trop compliqué et bien payé, et en fait il découvre que c'est... que son boulot, c'est être chauffeur donc de ces fourgonnettes qui étaient rebaptisées mairie annexe, mairie annexe en fait, Donc c'était, on avait écrit à la peinture sur les camions mairie annexe et donc les mairies arrivaient le matin, les fourgons quoi, avec à l'intérieur les registres d'EDF concernant le projet de centrale que la population était censée pouvoir consulter à tout moment dans les heures d'ouverture de la mairie. Et comme toutes les mairies du Cap-Sizun avaient fermé leurs portes à cette enquête, avaient boycotté en fait, donc ils avaient fermé les volets, fermé les portes et personne ne pouvait y entrer. Du coup, pour respecter la procédure, ces fourgonnettes étaient envoyées chaque jour avec les registres de la mairie. Du coup, ouais. Et donc ce boulot, c'était chauffeur de mairie annexe. Et autour des mairies annexes, évidemment, c'est là que les affrontements étaient violents, quoi.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette anecdote, elle m'a rappelé un ouvrage qui a été récompensé l'année dernière par le prix du roman social, qui s'appelait Un homme jetable, qui était un jeune qui était embauché par des sous-traitants du nucléaire.
Ah, c'est un homme jetable, c'est un pléonasme.
Oh,
c'est triste.
Pauvre petit chou.
Ça va mal finir pour tout le monde.
C'est drôle, non?
On ne s'en tira pas vivant, hein, de toute façon, je pense.
Moi, ça me fait penser aussi plus globalement à toute cette problématique, encore une fois, qui est utilisée en ce moment en Inde pour justifier l'implantation de ces centrales nucléaires sur une zone sismique. C'est de dire oui, mais ça va vous apporter des emplois,
oui.
Ne tournez pas le dos au développement. Et en fait, il y a eu des enquêtes très sérieuses menées dans d'autres régions de l'Inde qui montrent qu'en fait, ces centrales nucléaires n'apportent absolument pas d'emplois localement. Très peu de développement local. Et cet argument, c'est vraiment un argument fallacieux qui tient pas une fois qu'on regarde concrètement les retombées économiques de ces projets. Alors là, ça s'agite autour de moi, autour du studio, donc c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se murmure. Il se murmure des choses.
On va faire une petite pause, une nouvelle petite pause musicale. Delphine, est-ce que vous serez encore avec nous après la pause musicale ou est-ce qu'on abuse de votre temps?
Je ne sais pas. J'avais compté arrêter là, mais comme vous voulez.
On a nos amis de Musique Antique qui est la mission qui suit, qui est un petit peu de retard et du coup qui nous fait le cadeau d'un temps d'émission.
Ah oui, d'accord, ok.
Bon, c'est chouette.
Si on peut le partager ensemble, partageons-le.
Oui, d'accord, je ne sais pas. C'est...
Vous avez encore des trucs à dire, je suis sûre. Eric peut nous dire aussi, peut-être développer sur l'homme jetable.
Non, mais c'était une boutade, n'est-ce pas? Bien sûr que l'homme est jetable, parce qu'on parle, il faut sauver, on dit il faut sauver la planète, il faut sauver. Mais la planète, elle s'en fout complètement. C'est l'homme qu'il faut sauver de lui-même. Je veux dire que...
Sauf que si on sauve la planète, on sauve un petit peu l'homme aussi.
Non, je ne crois pas. Je crois que la planète va nous survivre. Et l'idée que d'un seul coup, elle exploserait pour une raison X ou Y, effectivement, il y a toutes les chances que ça pète. Mais il y a toutes les chances que... Vous savez, les dinosaures ont disparu, les sauriens ont disparu. La race humaine est malheureusement, à terme, destinée à disparaître. Et c'est l'homme qu'il faut sauver de lui-même. La planète, on s'en fout. J'avais vu un truc...
Alors, c'était Zoom Écologie. Non. Ça me rappelle vachement un sketch des
Inconnus. Je termine juste. J'ai vu un très beau reportage dans le National Geographic qui était édifiant, c'était bien évidemment une fiction, mais c'était une vue de New York après une catastrophe ou une guerre ou je ne sais quoi. Et toute cette espèce de... C'était une jungle urbaine qui était à nouveau là, c'est-à-dire que... Et on voit bien le vitalisme. Regardez, moi je pense que nous sommes des héros en ce moment. Pour vivre, aujourd'hui il faut être un héros.
Écoutez, Eric,
parce que nous sommes des plantes qui pousse dans la pierre.
Je crois, Delphine, que voilà. Vous avez... Et, je suis sûre que vous, à ce moment-là, ça, vous dites que vous avez
incroyable.
Quelque... On voit qu'il est 21h30 passé, et Zoom Écologie, vous vous lâchez. Hein.
Alors, la résilience de la nature, moi, je trouve ça drôlement intéressant. Et moi aussi, je suis persuadée qu'on va... Enfin, dans les générations futures, la résilience humaine aussi. Hein,
mais probablement.
La mutation. Donc, il y a un sketch des Inconnus excellent qui dit justement toujours. Le nucléaire, il n'y a aucun problème. Et alors, les protagonistes ont plusieurs bras.
Oui,
plusieurs,
voilà. Mais
adaptons-nous, effectivement. Mais en même temps, si on pouvait faire un petit peu de... finalement, un petit peu de prévention.
Alors,
quoi,
si on fait... Mais hein. bien entendu, et c'est la raison pour laquelle la chanson que j'ai chantée là n'est pas anodine. Hein.
Vous allez nous en proposer une suivante,
ouais, ouais.
D'ailleurs.
Mais il y a une double lecture dans cette chanson, et s'il était deux fois. Voilà, donc c'est juste une chose. Mais, là, y a, tout à l'heure, j'arrivais en voiture. Mais oui, mais
alors déjà il vient en voiture en plus.
Mais,
il dit
mais
que
alors le
la
jour, le...
Exploser, ouais, non, on mais... s'en fout. Alors bravo.
Non, mais c'est vrai, mais parce que le jour.
Mais c'est de sa faute, ça sera de sa faute.
Non, mais ça sera sûrement de ma faute. Et,
je sais pas s'il est sauvable. Ah, en fait.
On a trouvé un coupable.
Ouais. Ben voilà, c'est ça, c'est moi. Mais moi, le jour où on va m'obliger à rouler à vélo dans Paris, ça va m'emmerder grave, parce que il y a un truc. Je suis revenu du Vietnam il y a 3 ans. C'est pas politiquement correct, mais je m'en fous. Je veux dire, là-bas, tout le monde roule à vélo. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, j'arrive dans Paris, je me dis, mais alors si on était obligés tous de rouler à vélo, c'est le isme qui m'ennuie. Mais je voudrais terminer sur une note.
Parce que dans obligé, il y a isme.
Non, c'est dans écologisme,
mais
dans
l'isme
capitalisme,
de Courland est magnifique,
dans
par
communisme,
exemple.
Qu'il y a isme. Et là, moi, ça me gêne. Simplement... Et là, je vais terminer sur quelque chose de vraiment juste.
Moi aussi, ça me gêne.
Oui, mais j'ai plus d'auto, j'ai plus de télévision.
Bon, écoutez, Eric, ce que
je voudrais terminer.
Ce que je propose, c'est de vous écouter en chanson.
Mais je voudrais terminer sur une chose. Il y a quelque chose de merveilleux. Dans le bitume, j'ai vu un bouquet de coquelicots qui naît. Et ça vous fait marrer. Mais ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas?
J'aime bien cette vision.
C'est merveilleux, la résilience effectivement de la nature. C'est la nature qui reprend ses droits.
Non, mais ce sont les êtres humains
qui
devraient
être résilients.
Comme
la nature est en train de reprendre
ses
droits,
elle nous survivra bien plus longtemps.
Le coquelicot reprend ses droits sur le bitume.
Oui.
Et ben, je vous propose une petite pause musicale.
C'est une histoire de train, c'est pas très écologique.
Jamais la belle qu'un train peut en cacher un autre. Dans les coulisses d'un refrain qui chante je ne suis plus des vôtres. Quand les larmes roulent à marée basse, des 15 piges brisent dans la nasse. Qu'il existe une autre rive tout se barre à la dérive. Tu la connais bien la chanson, celle qui flirte avec l'amour. Quand fumer n'est qu'une raison de jaunir ses doigts dans la cour. À la récré du temps qui passe, du temps qui court et nous dépasse. L'échelle d'une météo qui ne sait plus dire un seul mot. Sur le tour d'une vie qui nage entre deux eaux aux environs de ceux qui disent moi à ton âge et qui chemins de l'environ. Sur la rivière blanche et noire, de ton piano bateau lavoir, quand il remorque tes chagrins et qu'il est tout juste un matin. Que la nuit noire est une alliée et une amie. Sur le chemin de la mémoire, qu'elle filtrera dans son tamis. Le vrai du faux, le beau du moche, que tu garderas dans ta poche, comme un oursin des jours anciens. Qui ne pique plus ou moins bien. Sache encore, ma fille, qu'en amour, jamais n'est jouée la saison, que nul n'en connaît le discours pour le garder dans sa maison. Mais qu'il y a dans ton sourire mille et une roses accueillies, qui n'attend que lui le futur, rira de la belle aventure. Pour finir, il me reste à dire, dans la nuit blanche d'un refrain, sur un accord qui s'étire, que moi aussi j'ai pris ce train. Ce train qui en cachait un autre. Et si ce soir je suis des nôtres, aussi vrai que tu le redoutes, que ma chanson lève le doute, et que ton cœur s'amuse en route.
Le bruit du train se mêle au bruit du tonnerre à l'extérieur.
Et on reprend notre locomotive pour nous rendre à nouveau en Bretagne, puisqu'on a toujours Delphine au bout du fil. Nous, on a vu votre album avec beaucoup de choses positives. On espère, en fait, et c'est un peu ce que vous démontrez, que l'expérience de cette lutte aidera aujourd'hui peut-être ceux qui reprennent un petit peu le flambeau, que ce soit sur le nucléaire ou que ce soit sur la reconquête de certains terrains.
Toi, tu penses à Notre-Dame-des-Landes, là.
Par exemple.
Ouais, j'y pensais aussi, cette bonne guerre. Hein.
Mais est-ce que le message, finalement, que vous voulez faire passer, c'est pas celui-là? Et est-ce que c'est ça qu'on peut retenir, à supposer qu'on puisse retenir une seule chose de votre album qui était très riche?
Bah, en tout cas, ce qui se passe, c'est que je suis contente de voir que des gens qui ont mon âge, quoi, donc on est nés à la fin de la lutte de Plogoff, les gens qui ne l'ont pas connu, découvrent cette histoire avec la bande dessinée. Donc ça, c'est chouette, parce qu'effectivement, dans le climat actuel, bah, je pense que ça a vraiment sa place de porter ce message-là. Alors, c'est pas exactement pour ça que je l'ai fait, c'est plus parce que l'histoire m'a vraiment intéressée et touchée beaucoup. Donc, je l'ai d'abord raconté, puis après, je me suis rendu compte de ce que je faisais. Mais en tout cas, le fait que maintenant, les retours que j'ai, c'est éventuellement des gens qui n'ont pas connu les événements et qui ne savaient pas du tout que ça avait existé. Effectivement, on voit là-dedans une lutte victorieuse et puis un potentiel peut-être si on s'y met à plusieurs sur un événement d'y arriver, quoi. Donc,
je pense que vous avez convaincu certains auditeurs de lire Plogoff aux éditions Delcourt, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Et après Plogoff, alors?
Et après Plogoff, on est reparti sur un sujet social aussi, de gens comme tout le monde, qui se battent aussi pour quelque chose. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais en tout cas, on
suspense.
Reste dans cette veine-là pour le moment.
On attend combien de temps, d'ici un an, deux ans?
L'année prochaine, dans la même collection, chez Delcourt, et ça sortira l'année prochaine. Je peux pas vous dire quand, on doit le finir pour le mois de juin, je crois, mai-juin.
Donc, ça prend combien de temps, un album comme Plug Off? Parce que tout à l'heure, on disait au sujet de Saison de Rune que Philippe Scarzoni a mis plusieurs années, en fait, hein, pour aboutir. Et pour vous, Plug Off, c'était un travail sur combien de temps?
On l'a fait dardard, en fait. Mais ça a demandé environ, je dirais, 8-10 mois de recherche. Documentaire et de rédaction du scénario pour essayer de retrouver tous les éléments, la chronologie de l'histoire, la documentation en images aussi, savoir comment les choses étaient à ce moment-là.
Enfin, je vais juste vous interrompre deux petites minutes parce qu'on a Eric, notre musicien, qui va nous quitter. Donc,
ah, d'accord.
Décidément, musicien, c'est incroyable.
Auteur, compositeur, interprète.
Ouais, enfin, je suis artiste de variété, c'est simple, quoi.
Enfin, c'était quand même voyez, facile c'est, de s'en souvenir.
Oui ou
à mon
pas,
avis, elle le
mais
fait exprès,
peu importe.
Eric.
Je ne fais pas exprès, quoi.
Non, elle, à mon avis, elle l'a fait exprès.
Ah oui, c'est parce que j'ai dit que la Terre, on s'en foutait. Mais ouais,
et voilà.
Je comprends
ah bah oui, ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu.
Oui, mais tu as le droit, mais c'est la Terre qui se fout de toi, elle s'en fout. Je
en tout dire, cas, on était quand même ravis de t'avoir. Et on aime bien avoir de temps en temps des gens qui ne sont pas forcément des pros, enfin des favorables à l'écologie.
Mais bien entendu que je suis favorable à l'écologie. C'est une évidence, enfin. Je veux dire, c'est vraiment
on se dit à bientôt.
Une évidence. À bientôt, merci de m'avoir invité.
Merci Eric.
C'est
et
un
à
plaisir,
très bientôt.
Eric. À bientôt.
Merci beaucoup, merci pour ces chansons.
Merci à vous.
Ça fait toujours du bien dans le studio.
Merci à vous, mais ne vous méprenez pas. Je n'aurai ma carte nulle part.
Non, mais c'est pas le sujet en plus, hein, vraiment, c'est pas du tout le sujet ici. Alors, moi, je propose qu'on revienne.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
On revient à Delphine, alors, peut-être, donc, parce que j'ai encore lâchement abandonné.
Voilà, au bout de 8 mois de recherche,
on
du coup...
Et on parle de solidarité, de collectif, on est solidaire dans...
Voilà. Eh oui, c'est difficile hein, d'être toujours parfait, c'est tellement difficile. De mettre toujours en œuvre ses convictions, mais c'est ce qui fait notre humanité aussi, n'est-ce pas Eric? À bientôt, au revoir. Donc vous disiez 8 mois de recherche. Et,
à peu près, oui, ouais. Et puis une année de pour le dessin, quoi, environ.
Oui, vous avez scénarisé, vous faites déjà un scénario texte avant de passer à la mise en image ou comment ça se passe le
oui,
travail
oui. Ben, moi, je dessine pas, hein, je sais pas dessiner, donc c'est Alexis qui dessine. Et donc, du coup, oui, je commence par écrire le scénario et puis ensuite, on travaille beaucoup ensemble, on vit ensemble aussi, donc ça
aide
des choses. Et du coup, oui, on travaille un peu toutes les étapes ensemble, sauf vraiment l'étape d'écriture pure ou de dessin pur, où là, l'un et l'autre, on n'intervient pas dans la partie de l'autre. Mais oui, ça commence toujours par l'écriture et puis ensuite le découpage, on le voit ensemble, on le revoit ensemble. Parfois Alexis découpe et puis ensuite moi je regarde et puis je lui dis ce que j'avais en tête. Enfin, on confronte un peu nos points de vue. Et voilà, une fois qu'on est OK, il dessine les pages et voilà.
Et chacun conserve sa liberté dans cette façon de fonctionner par rapport à l'environnement qui vous avez une description des choses et en même temps comment il met ça en image
Après ça lui appartient, c'est son interprétation. Alors certaines fois tant mieux parce que je lui ai livré le truc sans trop savoir comment il allait pouvoir s'en sortir et puis il s'en sort très bien. Et puis certaines fois je suis déçue, je voyais pas ça comme ça, mais bon c'est en même temps je comprends qu'il l'ait senti comme ça, qu'il le montre comme ça, et je suis pas opposée à la façon dont il le montre. Alors ça me va. C'était pas ce que j'avais en tête moi, mais bon, peu importe. Du moment que le sens y est, il fait comme il veut, quoi. C'est son métier.
C'est intéressant, du coup, je trouve, parce que au fil de cette émission, finalement, On parle de bande dessinée, on parle d'écologie, mais on parle aussi beaucoup de création. Et je trouve ça, du coup, c'était, on était parti sur une thématique plutôt, et puis finalement, comme on a la chance de pouvoir aussi vous entendre, on rentre aussi dans le backstage de l'œuvre, et c'est aussi très intéressant.
Puis on voit Laurence se speak. Laurence speaks English.
Ah oui,
good.
C'est ça. Aïe, 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 aïe.
Bon, en tout cas, merci. Merci Delphine d'avoir bien voulu participer à l'émission qui était un petit peu décousue. Mais en tout cas, c'était très agréable et on invite effectivement les lecteurs à suivre avec attention le prochain album dont vous nous avez réservé la surprise et en tout cas à lire Plogoff, parce qu'on a trouvé ça particulièrement intéressant et, comme on le disait, replacer ça dans un contexte où les luttes citoyennes ont un peu du mal à émerger et surtout à être, sinon médiatisées, en tout cas connues.
Et victorieuses.
Et victorieuses, en plus. C'est tout à fait bon ton.
Voilà. Merci beaucoup.
Bon, bah super.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir et merci à vous.
Au revoir.